Décryptage. Véronique Rigolet.
Bonsoir à tous. Dans Décryptage ce soir, la méthode Bayrou permettra-t-elle au gouvernement de poursuivre les réformes ? Il a survécu à deux motions de censure et fait enfin adopter le budget de l'État, là où son prédécesseur Michel Barnier s'était cassé les dents il y a tout juste deux mois. François Bayrou a lui réussi à désamorcer le piège budgétaire en s'assurant la non-censure du Parti Socialiste et du Rassemblement National. Une victoire politique qui lui offre un peu de répit à Matignon. Désormais libéré du boulet du budget, parviendra-t-il pour autant à lancer de grandes réformes dans une assemblée toujours éclatée en trois blocs quasiment irréconciliables? On en parle ce soir avec nos invités Jean-Philippe Moinet, fondateur et directeur de la revue Civique, auteur du livre « Un journal sous influence », roman paru aux éditions Ali Ribelli, « Les ailes rebelles ». Bonsoir.
Bonsoir, merci de l'invitation.
Et également à mes côtés, Philippe Moreau-Chevrolet, professeur de communication politique à Sciences Po, président de MCBG Conseil. Bonsoir.
Bonsoir.
Et bienvenue, bien sûr, à tous les deux sur RFI. Et pour commencer, peut-être un mot sur la méthode Bayrou, Philippe Moreau-Chevrolet. Comment a-t-il réussi à naviguer entre les courants contraires pour obtenir cette non-censure ?
Alors, il a donné des gages aux deux parties. Il a fait un peu du en même temps, mais il l'a fait d'une manière peut-être moins avouée, plus subtile que ce que faisait Emmanuel Macron. Et surtout, il l'a vraiment fait. C'est-à-dire qu'il a vraiment donné des gages au PS. Il a fait en sorte de trouver un compromis acceptable avec la gauche, ce que ne faisait pas Emmanuel Macron. Et il a aussi donné des gages au RN, qui sont des gages comme l'emploi du mot submersion, par exemple, qui sont plus des gages d'ordre idéologique. Mais il a composé comme ça une forme de neutralité autour de sa proposition. Puis il y a autre chose quand même. Il a bénéficié d'un extraordinaire concours de circonstances qui est qu'à la fois le public a désavoué les populistes dans les élections récentes partielles, à la fois LFI et le RN, au profit d'un retour de LR et de Renaissance, ce qui n'était quand même pas gagné dès le départ. Donc il y a une lassitude de la population par rapport aux populistes. Et puis il y a aussi une vraie union sacrée du patronat et des syndicats, à l'exception de la CGT, pour demander de la stabilité. Donc il a quand même bénéficié au final, j'ai envie de dire, Barnier a essuyé les plâtres, lui est arrivé derrière, et les gens se disent « bon, ok, on va arrêter de se battre, on va essayer ça ».
Barnier était la victime expiatoire qui fait qu'aujourd'hui, François Bayrou a eu ces circonstances particulières qui lui ont permis d'arracher cette non-censure, Jean-Philippe Moinet.
Oui, c'est vrai, il y a quelque chose de cette nature avec l'élément complémentaire, c'est que François Bayrou, contrairement à Michel Barnier, est à l'épicentre en fait, de l'arc républicain qui va de LR au Parti Socialiste, même si certains rajoutent LFI, et que c'était quelque part géopolitiquement, géographiquement dans l'échiquier politique, plus facile pour lui de se tourner à la fois sur sa droite et sur sa gauche pour discuter de ce budget qui a été adopté. C'est le premier élément, tandis qu'on sait que Michel Barnier était à la droite de cet arc républicain et tenter de négocier avec le Rassemblement national de Marine Le Pen. Et c'était peut-être son erreur stratégique de croire que cette attitude dite de respectabilité était fiable pour lui. Et donc, François Bayrou en a tiré les conclusions avec cette facilité, j'allais dire, géopolitique. Par ailleurs, il y a effectivement un grand besoin dans le pays de stabilité par rapport au budget. Parce qu'un pays ne fonctionne pas sans budget. Tout le monde s'en est aperçu, sauf certaines franges radicales de l'échiquier politique. Et le Parti Socialiste en particulier a bien vu que l'opinion publique pouvait sanctionner les acteurs du chaos budgétaire, pour commencer. Et quand on regarde même l'électorat, les sympathisants de LFI, on voit que la moitié d'entre eux ne souhaitaient pas une censure majoritaire. Donc on voit bien qu'il y a un souhait après la crise Barnier de stabilité et de constance sur l'élément peut-être qui paraît minimaliste, mais celui d'un budget qui est très important pour activer les politiques publiques en France.
Au-delà de cette conjoncture que vous venez d'expliquer, est-ce qu'il y a quand même une habileté particulière du Premier ministre Bayrou ? Est-ce que, par exemple, il a été très malin de nommer Éric Lombard au ministère de l'Économie, qui est le grand ami du patron du PS, Olivier Faure ?
Alors, il y a peut-être cette habileté de discussion, y compris en coulisses, pour François Bayrou, mais je pense que c'est plus des éléments qui convergent entre les éléments conjoncturels et les éléments structurels politiquement, notamment venant du Parti Socialiste. Pourquoi ? Parce que le Parti Socialiste a besoin d'autonomie durable par rapport à LFI, durable au sens d'ici la présidentielle. Ils ont besoin de temps pour se reconstruire et définir une offre politique pour la présidentielle de 2027, c'est pour ça qu'il ne voulait pas participer à l'accélération et la dite déchéance du président de la République, voulue par Jean-Luc Mélenchon. Et de ce point de vue-là, il y a un écart à la fois tactique et stratégique entre le Parti Socialiste et LFI, qui fait que François Bayrou a pu être habile, mais il y a cet élément-là qui est structurant pour le Parti Socialiste. Les municipales, beaucoup de maires socialistes pour 2026 savent que l'autonomie peut faire partie d'un facteur positif pour eux, paradoxalement, puisque l'électorat se positionne sur des enjeux de responsabilité locale et pas forcément sur les postures idéologiques nationales, d'une part. Et puis, on voit bien que les maires socialistes en place mordent sur un électorat centriste. Je pense à Nantes, je pense à Montpellier, des grandes villes comme celle-ci font que les maires socialistes sortants se disent, finalement, l'autonomie va nous servir électoralement. Tous ces éléments, 2026-2027, concourent à une séparation peut-être relative entre ces deux branches qui sont historiquement d'ailleurs permanentes, la gauche radicale et la gauche réformiste.
Alors François Bayrou a donc échappé à cette double censure. Ça s'annonce un peu plus compliqué pour la suite déjà. Philippe Moreau-Chevrolet, est-ce qu'il est totalement exclu qu'il puisse chuter dès le 19 février hein, c'est lors de la motion de censure justement du Parti Socialiste contre la trumpisation du gouvernement Bayrou, la fameuse affaire, les mots malheureux sur la submersion migratoire.
Ah non, ça, il se trouve pas. Il faut soit que le Parti Socialiste vote la censure ou que le RN vote la censure. Enfin, il faut que les deux votent la censure. Il suffit qu'il n'y en ait qu'un des deux qui ne vote pas et le RN ne votera évidemment pas sur cette base-là pour que le gouvernement reste. Donc, c'est pas ça qui fera sauter le gouvernement. Ce qui peut faire sauter le gouvernement, c'est le moment où ben, il y aura une espèce d'érosion et que et le RN et le PS décideront que il est temps de repartir en campagne, notamment pour les municipales. Donc, on peut faire sauter Bayrou juste pour donner un gage de radicalité, pour mettre aussi la majorité, enfin, ce qui reste de la majorité en difficulté. Il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles on le fait sauter, mais ce ne sera pas le 19 février, a priori.
D'accord. Donc, passer ce mur du budget, est-ce que la méthode Bayrou permettra d'engager des grandes réformes structurelles, non consensuelles, hein, par essence, dans une assemblée divisée ? Est-ce que vous pensez, Jean-Philippe Moinet, comme Édouard Philippe, que rien de décisif ne sera mené à bien dans les deux ans ?
Dans les deux ans, je ne sais pas, mais en tout cas, dans les six mois, oui.
Au-delà de la provocation d'Édouard Philippe par rapport à Bayrou. Hein.
Oui, j'entends bien. Et simplement, c'est vrai que dans les six prochains mois, on ne voit pas de, entre guillemets, grande réforme, au sens qui ne serait pas forcément consensuel. Qui viendrait à l'ordre du jour. Je pense que l'heure, y compris, et ça fait partie d'ailleurs des atouts paradoxaux de François Bayrou, c'est que cette temporisation qui est celle qui réunit LR et le Parti Socialiste politiquement et électoralement parlant, fait que le bloc central se trouve dans une situation plutôt favorable pour quelques mois. Mais je ne sais pas quand ça va durer, mais au moins jusqu'au début de l'été. Après, effectivement, des incertitudes viendront et François Bayrou aura dépassé le record de Michel Barnier de rapidité de son gouvernement.
C'était pas le plus compliqué, on peut reconnaître.
C'était pas le plus compliqué.
C'est un peu plus court de la cinquième.
C'est Michel vrai. Barnier. Donc c'était le plus court, donc il sera pas dans ce record-là, en tout cas. Mais après, on ne peut pas prédire ce qui se passera parce que c'est vrai que les municipales vont donner des gages aux opposants de toute nature de se distinguer du gouvernement. Mais quel sera l'intérêt des uns et des autres de faire tomber un gouvernement qui devra se reconstruire ? Puis il y aura l'hypothèse, va-t-elle être effective ou pas, de pouvoir, c'est une possibilité, dissoudre à nouveau l'Assemblée nationale pour trouver une majorité qui ne soit pas celle de la fragmentation actuelle, ce qui serait un autre pari, sans doute complexe et difficile, mais qui n'est pas impossible juridiquement, en tout cas.
Philippe Moreau-Chevrolet, quel texte François Bayrou peut-il pousser sans trop de risques à l'Assemblée nationale ? On pense peut-être au projet de loi d'orientation agricole, au projet de loi sur le narcotrafic. En revanche, pour les retraites, ça va être plus compliqué.
Pour les retraites, ça ouvre un chantier qui est... Enfin, d'abord, Emmanuel Macron ne souhaite pas qu'on le fasse. Donc, il y a déjà une interdiction de l'Élysée d'aller sur ce terrain. Ça ouvrirait une guerre idéologique absolue entre la gauche et la droite. Donc, ça mettrait le gouvernement en difficulté. Il n'a aucun intérêt, lui, à aller sur ce terrain. C'est ce que voudrait la gauche. Mais lui, il n'a pas intérêt à y aller. En fait, non, on ne voit pas de grande réforme. Après, sur l'agriculture, il est obligé de faire quelque chose parce qu'il a une pression très concrète, très violente des agriculteurs pour faire quelque chose. Il va falloir qu'il agisse. Et le plus vraisemblable quand même, si on doit prédire quelque chose, ce sera une action internationale, peut-être du chef de l'État, en tout cas quelque chose pour réagir à ce qui est en train de se passer aux États-Unis, qui est extraordinairement grave. Et par rapport à ça, il va falloir que la France prenne une position un petit peu différente que commenter en note de bas de page les événements.
Là, vous parlez du président de la République.
De l'exécutif en général. Pour l'instant, on vit un peu dans notre bulle hexagonale. Mais en fait, la situation a quand même radicalement changé depuis le 20 janvier, la prise de pouvoir de Donald Trump.
On reviendra sur la perte d'autorité, en quelque sorte, du président. Parlons un peu avant l'impact de cette non-censure sur les partis politiques. On l'a déjà un peu amorcé avec le Parti socialiste. Les dégâts à gauche sont irrémédiables. C'est véritablement la fin du NPF, du nouveau front populaire, Philippe Moinet.
Alors, c'est vrai que quand on regarde l'histoire longue, et c'est ce que dit par exemple François Hollande, cette gauche a toujours été divisée par l'ancien Parti communiste et que l'union était un combat. C'était le terme qui réunissait ces gauches dans la conflictualité quasi permanente. On a oublié, mais entre le Parti communiste, pendant la guerre froide d'ailleurs, et le Parti socialiste, il y avait plus que des grands écarts, non seulement idéologiques et programmatiques, mais parfois politiques, avec des épisodes très houleux. Ce qui n'avait pas empêché François Mitterrand de tenter et de réussir pour la deuxième fois de sa candidature présidentielle, cette union électorale. Et donc, des partenaires de réflexion stratégique du Parti socialiste autour de François Hollande notamment, mais il y en a bien d'autres, estiment que cette autonomie n'est pas forcément une brisure totale du pacte électoral quand il le faut, mais c'est une nécessité stratégique de se distinguer, sachant qu'il y aura un candidat ou une candidate, mais de la gauche dite réformiste, social-démocrate et européenne, qui de toute façon se présentera. Après lequel, on voit qu'ils ont besoin de temps pour s'entendre sur un candidat ou une candidate. Et le congrès de cette année pour le Parti socialiste sera important pour entériner ou pas cette stratégie de l'autonomie. Mais pour répondre à votre question, c'est un jeu difficile parce qu'il y a un grand écart qui s'est manifesté. On a vu ces jours-ci des invectives venant des deux bords. Et on a vu la furie de Jean-Luc Mélenchon, qui est certes habitué en cette matière colérique, mais qui a...
Il est le bruit et la fureur.
Qui est sorti de ses gonds plus ou moins artificiellement. On ne sait jamais trop avec lui. Mais en tout cas, je pense que les municipales vont être intéressantes parce que les élections partielles ont montré que finalement... la gauche radicale n'est pas forcément performante, et c'est un euphémisme, puisqu'elle a échoué même à maintenir un siège de député à une élection partielle récente. Et donc, on voit bien que les radicalités dans une période, et c'est vrai qu'il faut noter le contexte historique dans lequel on est, mondial, international et en Europe en particulier, où tous les dirigeants responsables... Et c'est pour ça que cette stabilité est recherchée aussi. Les responsables, que ce soit de gauche ou de la droite républicaine, savent que l'Europe est quand même dans une situation très difficile, que la crise sécuritaire puisqu'il faut parler de cela, et des menaces qui pèsent sur l'Europe, rajoutent à la gravité du moment et font que les petites histoires politiciennes passent quand même au second plan, y compris chez eux, ce qui est suffisamment rare pour être souligné.
Je reste encore une petite seconde, hein, si vous le permettez, dans les petites histoires politiciennes.
Oui,
et notre crise politique, est-ce que cette guerre qui s'amorce entre LFI et le PS peut, Philippe Moreau-Chevrolet, pousser les socialistes vers le bloc central et aider le Premier ministre ainsi à réformer?
C'est tout à fait possible. Après, la question qui se pose est celle de l'incarnation. Il faut trouver un leader au PS qui soit capable de ramener une gauche de gouvernement dans une orbite intéressante. C'est-à-dire qu'on puisse raisonnablement à gauche miser sur le PS comme force dominante. C'est pas complètement gagné quand même. Mais oui, c'est possible parce que LFI cumule beaucoup les erreurs. En fait, LFI a compris la stratégie populiste et l'applique. Mais c'est une stratégie qui ne peut bénéficier que à LFI. Donc à partir de là, le PS finalement tire aussi le constat simple qu'il n'a rien à gagner à cette alliance, en dehors peut-être de, éventuellement, dans certaines circonstances, avoir des élus plus facilement. Voilà, pour les législatives c'est sûr, mais c'est quand même très loin. Voilà, il risque juste de disparaître, de se faire phagocyter petit à petit, donc il y a une forme de réflexe de survie aussi, je pense, de la gauche. De gouvernement, de se dire, nous, on ne peut pas disparaître historiquement. Il y a quand même un attachement d'un certain nombre, et qui est très sincère, d'un certain nombre de politiques à la modération, au fait de vouloir garder un débat politique digne, un débat politique calme, et pas laisser tout le champ aux excités et aux populistes. Et franchement, dans le contexte international, encore une fois, c'est une pression qui est aussi très sensible. Reprenez l'image, l'affiche de Gabriel Attal, qui est assez symptomatique. C'est une affiche qui le montre au premier plan et avec derrière en noir et blanc et opposé, enfin dos contre dos, dos à dos, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Et lui se pose en candidat de l'ordre. Il dit quoi? Il dit les populistes, c'est le désordre. Et moi, je suis le candidat modéré qui va essayer de rétablir un peu d'ordre dans le débat politique. Je ne sais pas si Gabriel Attal est l'homme de la situation, mais c'est relativement bien vu dans la mesure où ça résume la situation. On risque de voir disparaître une classe politique modérée. Donc il y a un vrai aussi, je pense, esprit de responsabilité chez beaucoup de socialistes, comme Philippe Brun, par exemple, qui se disent probablement il faut réfléchir à deux fois avant de faire ce pas.
Et je rajouterais juste un mot là-dessus,
Moinet.
C'est que les électeurs eux-mêmes ont quand même, à un moment donné, quand le scrutin proportionnel le permet, montré qu'il y avait une préférence pour la gauche réformiste par rapport à la gauche radicale, confèrent les dernières élections européennes qu'on a quasiment oubliées, mais qui ne sont pas si loin que ça, et qui ont montré que quand il y a un scrutin proportionnel, finalement, la gauche réformiste l'emporte sur la gauche radicale. D'ailleurs, la réforme qu'on peut estimer, qu'elle soit grande ou petite, on le verra, mais celle du scrutin peut être un des chantiers possibles des prochains mois. C'est d'ailleurs une conviction commune à François Bayrou, d'ailleurs y compris à Marine Le Pen, et à une partie de la gauche qui souhaite favoriser l'autonomie par ce biais d'un nouveau mode de scrutin électoral. Donc c'est un enjeu qui peut permettre aussi les autonomies.
Justement, j'y viens un mot peut-être hein, sur le président de la République dont certains continuent à demander la démission immédiate et pas seulement Jean-Luc Mélenchon. La perte d'autorité du président est grande. Il a presque disparu des radars de la vie politique, comme ça se passe souvent en cohabitation. Est-ce que c'est préjudiciable pour le pays, Philippe Moreau-Chevrolet, en quelques mots?
Oui, c'est préjudiciable pour le pays. Non, c'est pas irrémédiable. Il a deux stratégies. Il a une stratégie de la carte postale locale, ce qu'il a commencé à faire avant l'élection de Trump. Il a une autre stratégie possible qui est d'être l'homme qui tient tête à Donald Trump. Maintenant, il a une chance incroyable en politique. Il a un adversaire. Il les a tous tués, mais Trump est un petit peu plus fort que lui pour l'instant. Donc c'est à lui de montrer qu'il peut être cet opposant que l'Europe attend quelque part, ou en tout cas la France.
Et c'est en cela qu'il a invité le président syrien la semaine prochaine à Paris.
Oui, on voit bien. Alors est-ce que c'est préjudiciable au pays? Finalement, je ne pense pas, parce que, enfin, dans une certaine mesure, je pense qu'en fait, on se rapproche des régimes parlementaires voisins où l'exécutif dépend du chef du gouvernement. Donc le président a son domaine réservé. C'est un secteur très important pour l'Europe.
Et on y reviendra.
Et le gouvernement gouverne.
On y reviendra sur RFI. Merci Jean-Philippe Moinet, directeur de la revue civique. Merci Philippe Moreau-Chevrolet, professeur de communication politique à Sciences Po.